Le livre de Joël et l'église adventiste du septième jour, Laodicéenne, numéro 35.
Numéro 35.
À la page 81 de Early Writings, et 81 est un symbole d'un souverain sacrificateur divin et de 80 sacrificateurs, le second rêve de William Miller est consigné. À l'instar de Nabuchodonosor, William Miller eut deux rêves. Le second rêve de Nabuchodonosor, au chapitre 4 de Daniel, s'inscrit dans le cadre des sept temps de Moïse en Lévitique 26. Miller employa Daniel, chapitre 4, pour illustrer les sept temps du Lévitique 26 lorsqu'il enseigna le 2520, bien qu'il l'appelât les sept temps. Miller ne reconnut pas qu'il avait été préfiguré par Nabuchodonosor, mais les 2520 jours de Nabuchodonosor, au chapitre 4, étaient représentés à la fois par le mot « scatter » et par le fait qu'il y apparaît sept fois, avant que l'homme à la brosse à poussière n'arrive dans le rêve de Miller. Miller est appelé « Père Miller » par Sir White, non pas à la manière païenne dont procèdent les catholiques, mais d'une manière patriarcale, à l'instar du père Abraham. Miller est un symbole, c'est un homme de l'Alliance, représentant la chaîne des symboles bibliques sur le chemin menant à l'Alliance finale avec les 144 000. Joël annonce que, dans les derniers jours, les vieillards auront des songes, et William Miller est le vieillard de notre histoire, et aussi le laboureur qui a accompli la prophétie de William Tyndale, laquelle déclare « Si Dieu m'épargne la vie, avant bien des années, je ferai en sorte qu'un garçon qui conduit la charrue en sache plus de l'écriture que toi. »
Dieu envoya son ange toucher le cœur d'un cultivateur qui n'avait pas cru en la Bible, afin de le conduire à sonder les prophéties. Les anges de Dieu visitèrent à maintes reprises cet homme choisi pour diriger son esprit et ouvrir à son intelligence des prophéties qui avaient toujours été obscures pour le peuple de Dieu. Le commencement de la chaîne de la vérité lui fut donné et il fut amené à rechercher maillon après maillon jusqu'à ce qu'il contempla avec étonnement et admiration la parole de Dieu. Il y vit une chaîne parfaite de vérité. Cette parole qu'il avait considérée comme n'étant pas inspirée s'ouvrit alors devant ses regards dans sa beauté et sa gloire. Il vit qu'une partie de l'Écriture en explique une autre et que, lorsqu'un passage était fermé à son intelligence, il trouvait dans une autre partie de la parole ce qu'il expliquait. Il considérait la sainte parole de Dieu avec joie et avec le respect et la crainte les plus profonds. Early Writings, 230.
Miller était le fermier qui accomplit la prophétie de Tyndale, et sa première publication de la connaissance prophétique qu'il avait rassemblée à partir du décèlement de Daniel 8:14 parut en 1831, 220 ans après la publication de la version King James de la Bible. John Wycliffe, William Tyndale et la publication de la version King James de la Bible en 1611 représentent trois jalons qui inaugurent la prophétie de 220 ans. Laquelle s'achève lorsque le garçon de charrue de Tyndale ouvrira la parole de Dieu au message du premier ange, qui devait être suivi de deux autres anges. Ce premier ange arriva en 1798 et le troisième en 1844. Wycliffe, Tyndale et King James se rattachent au fermier qui devait accomplir la prédiction de Tyndale et qui symboliserait l'histoire de trois anges de 1798 jusqu'en 1844. La découverte alpha de William Miller portait sur les deux 420 ans de Lévitique 26 et sa découverte oméga sur les deux 400 quasinas de Daniel 8:14. La période de 2520 ans de dispersion de Judas commençant en 607 d.C. à Jésus-Christ et s'acheva en 1844. Les deux 400 quasinas de Daniel 8:14 s'achevèrent en 1844. Toutes deux s'achevèrent ensemble en 1844, et les points de départ des découvertes alpha et oméga de William Miller étaient séparés de 220 ans. 220 est un symbole d'Oplen Lull Miller, reposant sur deux témoins. Les découvertes alpha et oméga de Miller sont représentées par 1898 et 1844. La dispersion de 2520 ans contre le royaume du Nord prit fin en 1898 et 46 ans plus tard, en 1844, les deux 400 quasinas prit fin. La période de 2520 ans qui s'est achevée en 12,5 trèves suite marque cette date, et la période de 2520 ans contre Judas, qui s'est achevée en 1844, produit une période de 220 ans. Cela signifie que la période des 2520 contre Israël produit la période prophétique de 46 ans, et que la période des 2520 contre Judas produit la période prophétique de 220 ans. L'alpha de cette période est 667 avant Jésus-Christ et l'oméga 405 avant Jésus-Christ, ce qui signifie que l'alpha de la période de 46 ans et de celle de 220 ans est représenté par les 2520 et que l'oméga des deux lignes est les 2300. Les deux dispersions de 2520 ans fournissent deux témoins d'une période qui commence par les 2520 et s'achève par les 2300. Ces deux lignes identifient les découvertes alpha et oméga de William Miller.
Le songe de William Miller. Je rêvais que Dieu, par une main invisible, m'envoyait un coffret finement ouvragé d'environ 10 pouces de long sur 6 pouces de côté, fait d'ébène et finement incrusté de perles. Au coffret était attachée une clé. Je pris aussitôt la clé et j'ouvris le coffret. Lorsqu'à mon étonnement et à ma surprise, je le trouvais rempli de bijoux de toutes sortes et de toutes tailles, de diamants, de pierres précieuses et de pièces d'or et d'argent de toutes dimensions et de toutes valeurs, merveilleusement disposés chacun à sa place dans le coffret. Et ainsi disposés, ils reflétaient une lumière et une gloire n'égalées que par le soleil. Je ne pensais pas devoir jouir seul de ce spectacle merveilleux. Bien que mon cœur fût transporté de joie par l'éclat, la beauté et la valeur de son contenu. Je le posai donc sur une table au centre de ma chambre et fis savoir que tous ceux qui en avaient le désir pouvaient venir voir le spectacle le plus glorieux et le plus éclatant que l'homme ait jamais vu en cette vie. Le peuple commença à entrer, d'abord peu nombreux, mais leur nombre alla croissant jusqu'à former une foule. Lorsqu'ils regardaient pour la première fois dans le coffret, ils s'émerveillaient et poussaient des cris de joie. Mais à mesure que les spectateurs se multipliaient, chacun se mettait à déranger les joyaux, les sortant du coffret et les éparpillant sur la table. Je me mis à penser que le propriétaire me redemanderait de ma main le coffret et les joyaux, et que si je souffrais qu'ils fussent dispersés, je ne pourrais jamais les remettre chacun à sa place dans le coffret comme auparavant. Et je sentais que je ne pourrais jamais en répondre, tant la responsabilité serait immense. Je me mis alors à supplier les gens de ne pas les manipuler ni les retirer du coffret. Mais plus je suppliais, plus ils les dispersaient. Et maintenant, ils semblaient les disperser partout dans la pièce, sur le sol et sur chaque meuble de la pièce. Je vis alors que, parmi les joyaux véritables et la monnaie authentique, ils avaient disséminé une quantité innombrable de faux joyaux et de fausses monnaies. Je fus fort courroucé de leur conduite ignoble et de leur ingratitude, et je les en repris et leur en fis reproche. Mais plus je les reprenais, plus ils répandaient les faux joyaux et la fausse monnaie parmi les véritables. Je fus alors contrarié dans mon âme physique et me mis à employer la force physique pour les pousser hors de la pièce. Mais tandis que j'en expulsais un, trois autres entraient et apportaient de la saleté, des copeaux, du sable et toutes sortes d'ordures, jusqu'à recouvrir chacun des véritables joyaux, diamants et pièces de monnaie qui se trouvaient tous soustraits à la vue. Ils mirent aussi en pièces mon coffret et l'éparpillèrent parmi les ordures. Je pensais que personne ne se souciait de ma peine ni de ma colère. Je devins tout à fait découragé et abattu, et je m'assis et me mis à pleurer. Tandis que je pleurais ainsi et me lamentais de ma grande perte et de ma responsabilité, je me souvins de Dieu et priais avec ferveur qu'il m'envoyât du secours. Aussitôt, la porte s'ouvrit, et un homme entra dans la pièce, tandis que tous ceux qui s'y trouvaient en sortirent. Et lui, tenant un balai à la main, ouvrit les fenêtres et commença à balayer la saleté et les détritus de la pièce. Je lui criai de s'abstenir, car il y avait quelques joyaux précieux éparpillés parmi les débris. Il me dit « Ne crains point, car il prendrait soin d'eux ». Alors, tandis qu'il balayait la poussière et les ordures, les faux bijoux et la fausse monnaie, le tout s'éleva et sortit par la fenêtre comme un nuage, et le vent l'emporta. Dans le tumulte, je fermai les yeux un instant. Quand je les rouvris, les ordures avaient toutes disparu. Les pierres précieuses, les diamants, les pièces d'or et d'argent gisaient éparpillées en profusion dans toute la pièce. Il posa alors sur la table un coffret, beaucoup plus grand et plus beau que le précédent, et ramassa les bijoux, les diamants, les pièces de monnaie, par poignées, et les jeta dans le coffret jusqu'à ce qu'il n'en restât plus un seul, bien que certains des diamants ne fussent pas plus gros que la pointe d'une épingle. Il me demanda alors de « venir voir ». Je regardais dans le coffret, mais mes yeux furent éblouis par ce que je vis. Ils brillaient d'une gloire 10 fois plus grande qu'auparavant. Je pensais qu'ils avaient été récurés dans le sable par les pieds de ces malfaisants, qui les avaient dispersés et foulés dans la poussière. Ils étaient rangés dans le coffret avec un bel ordre, chacun à sa place, sans qu'on vît la moindre trace de l'effort de l'homme qui les y avait jetés. Je poussai un cri de pure joie, et ce cri me réveilla. Premiers écrits. 81-83.
À partir de la page 88, symbole des prêtres, le rêve retrace l'histoire de l'œuvre de l'Église adventiste du septième jour laodicéenne, consistant à détruire les vérités fondamentales rassemblées par la divinité au moyen de l'humanité de William Miller. L'histoire se termine lorsque Miller cria d'une très grande joie et que ce cri l'éveilla. L'histoire représentée dans le rêve s'achève au grand cri du troisième ange, qui est l'apogée du cri de minuit. Le récit historique du rêve de Miller représente aussi les jalons de l'histoire millérite et représente donc aussi l'histoire parallèle du mouvement des 144 000. Il est tout aussi significatif que la représentation historique du rêve contienne également une fractale prophétique de l'histoire qui a commencé à se répéter en 2023. Les joyaux de vérité qui avaient été reconnus dans l'histoire des 144 000 furent consignés au registre public en 2004, puis de nouveau en 2012, lorsque la présentation des tables d'Habacuc rassembla un groupe destiné à être dispersé. Ces vérités furent mises sur la table en 2004, avec la première présentation des vérités qui avaient été décelées en 1989. Un petit nombre considéra alors le message, mais en 2012, la série de 85 présentations intitulée « Les tables d'Habacuc » fit entrer une foule, car le peuple commença à entrer, d'abord en petit nombre, mais allant croissant jusqu'à former une foule. De 2003 jusqu'au 18 juillet 2020, ces vérités furent progressivement dispersées et recouvertes de décombres. Le 18 juillet 2020, les tenants du message des tables d'Habacuc furent dispersés pour une période de 3 jours et demi.
Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres gisront sur la place de la grande ville, qui, spirituellement, est appelée Sodome et Égypte, là même où notre Seigneur fut crucifié. Et des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à leur sujet, se livreront à l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes avaient tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Apocalypse 11, 7, 10.
Le sabbat 30 décembre 2023, Future for America s'est joint à une session Zoom pour sa première réunion publique depuis le 18 juillet 2020. Le 30 décembre 2023 intervient 1 360 jours après le 18 juillet 2020, soit 3 jours et demi. Alors qu'Élie et Moïse étaient morts dans la rue, l'autre classe se réjouit. Future for America avait repris la publication du message prophétique en juillet 2023, car le message qui était alors destiné à aller à toute la terre devait, par nécessité prophétique, venir du désert. 3 jours et demi, ou 1 360 jours, constituent un désert.
Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. Apocalypse 12, 6.
Le désert est 1260 jours, soit 1 moulien de 760 jours, ce qui équivaut également à 3 jours et demi. Il est représenté en Apocalypse 12, 6 et 1260 et la dîme de 1 moulien de 760. L'une des vérités étonnantes qui furent alors décelées fut la nécessité de la repentance en accomplissement de la prière des 7 fois du Lévitique 26. La période de 1260 jours est aussi un symbole de 2520 jours. Les 7 temps contre le royaume du Nord commencèrent en 274 avant Jésus et prirent fin en 1798. Le point médian est 530 étruites, créant ainsi 1260 ans durant lesquels le paganisme foula aux pieds le sanctuaire et l'armée, suivi de 1260 ans durant lesquels le papisme foula aux pieds le sanctuaire et l'armée. Cette structure prophétique s'aligne sur les 1260 jours allant du baptême du Christ à la croix, lesquels sont suivis de 1260 jours prophétiques jusqu'en 34 après Jésus-Christ, lorsque l'Évangile fut annoncé aux gentils. Ainsi, sur le témoignage de 2 témoins, les intossants, ce sont 2 qui font partie des 2520 jours, ou des 7 temps de Moïse au Lévitique 26. Au cours de la période de la voie dans le désert, qui s'étendit du sabbat 18 juillet 2020 au sabbat 30 décembre 2023, la voix se mit à crier en juillet 2023 et lorsque la période du désert prit fin au sabbat 30 décembre 2023, la résurrection de Moïse et d'Élie advint. Le message de la voix indiqua que le jalon des premières déceptions parallèles dans chaque mouvement de réforme expliquait, dans le contexte de la parabole des 10 vierges, la fausse prédiction du 18 juillet 2020. Il appela les hommes et les femmes à la repentance représentée par la prière du Lévitique 26. Le songe de Miller représente précisément cette repentance lorsqu'il consigne « Tandis que je pleurais et me lamentais ainsi sur ma grande perte et ma responsabilité, je me suis souvenu de Dieu et j'ai prié avec ferveur qu'il m'envoie du secours. »
Venez et voyez.
Le rêve de Miller est ponctué par 2 occurrences de l'expression « viens et vois ». La première fois, Miller invite les gens à venir et voir. La seconde, l'attrique à la brosse à poussière invite Miller à venir et voir. « Viens et vois » est un symbole prophétique qui identifie une vérité prophétique décelée. Chacun des quatre premiers sceaux contient l'injonction « Viens et vois ».
Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis, comme un bruit de tonnerre, l'un des quatre êtres vivants dire « Viens et vois ». Et lorsqu'il eut ouvert le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens et vois ». Et lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens et vois ». Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens et vois ». Apocalypse 6, 1, 3, 5, 7.
Le « Viens et vois » au début du rêve de Miller est l'alpha, et le « Viens et vois » final est l'oméga. Le rêve identifie la levée du sceau et commencement du rêve à des joyaux qui, disposés, reflétaient une lumière et une gloire n'ayant d'égal que le soleil. Quand le Christ dit à Miller « Viens et vois », l'alpha, oméga, Miller déclare « Mes yeux furent éblouis par le spectacle. Ils resplendissaient d'une gloire 10 fois supérieure à leur gloire antérieure. La lumière de l'alpha était à l'égal du soleil et la lumière de l'oméga était 10 fois celle du soleil. »
Disperser.
Le deuil et la repentance de Miller sont représentés au terme de la période qui a commencé avec le premier « Viens et vois » et s'est achevée avec le dernier « Viens et vois ». Dans la période qui commence par le décèlement, par Miller, d'un message adressé au peuple et s'achève par le décèlement, par le Christ, d'un message adressé à Miller, le mot « dispersé » apparaît 7 fois. Miller emploiera encore ce mot, mais entre le premier et le dernier décèlement, « dispersé » apparaît 7 fois. La Bible identifie le jugement des 7 temps au mot « dispersé ».
« Et je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. » Lévitique 26, 33.
La toute première vérité que Miller découvrit fut les 7 temps de Lévitique 26. Et quand son rêve, durant la période comprise entre la publication du message de Miller et celle du message du Christ, toutes les vérités fondamentales représentées par l'œuvre de William Miller devaient être recouvertes par les décombres et les pièces contrefaites des théologiens de l'adventisme du septième jour Laodicéa. Ce rejet des vérités fondamentales est représenté comme 7 dispersions au sein de l'histoire comprise entre l'alpha et l'oméga. Les 7 temps sont un symbole de l'œuvre de William Miller, laquelle constitue à son tour les fondements de l'adventisme du septième jour, dont les 2300 jours de Daniel 8-14 sont le pilier central de ce même fondement. Cela indique que la période de 2520 ans de dispersion, qui fut la première, ou découverte alpha, de William Miller, marque le commencement d'une période qui s'acheva avec la découverte oméga de William Miller, à savoir les 2300 jours. Lorsque l'adventisme du septième jour laodicéen mit de côté les 7 temps en 1863, il mit de côté la première découverte de William Miller, qui devait être sa découverte alpha et sa découverte fondatrice. La dernière des découvertes de Miller fut celle des 2300 jours, qui fut sa découverte oméga et sa découverte couronnante. Les 7 temps qui prirent fin en 1998 marquèrent les 2520 et les 2180 qui furent marqués en 1844. C'est l'homme à la balayette qui rassemble les joyaux après qu'ils ont été dispersés pendant 7 temps. Alors le coffret est plus grand et plus beau, et il resplendit 10 fois plus que le soleil. 10 est un symbole d'épreuve, et ces joyaux brillent donc dans l'épreuve au sujet du jour du soleil. Ainsi, le rêve de Miller commence en 1798 et se termine au grand cri du troisième ange, au moment de la loi du dimanche. L'histoire des Millérites de Cité 198 jusqu'en 1863 est aussi l'histoire de Cité 198 jusqu'à la loi dominicale imminente. L'histoire représentée dans le rêve de William Miller, qui se déroule entre le moment où Miller dit « Viens et vois » et celui où l'homme au balai à poussière dit « Viens et vois » constitue à la fois la période de 798 jusqu'en 1863 et la période de 798 jusqu'à la loi dominicale. La ligne qui se termine en 1863 est une fractale prophétique de la ligne qui commence en 1798 et s'achève à la loi dominicale. Ces 2 lignes sont représentées dans le rêve de William Miller. La porte fermée du 22 octobre 1844 typifie la porte fermée lors de la loi du dimanche. La prophétie des 2300 ans qui s'est accomplie en 1844 typifie la loi du dimanche.
La venue du Christ, notre souverain sacrificateur, dans le lieu très saint pour la purification du sanctuaire, présenté dans Daniel 8:5. La venue du Fils de l'homme vers l'Ancien des Jours, telle qu'elle est présentée dans Daniel 7:13, et la venue du Seigneur dans son temple, annoncés par Malachie, sont la description d'un seul et même événement. Et cet événement est aussi représenté par la venue de l'époux aux noces, décrite par le Christ dans la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. The Great Controversy, phase 104.
Ling, l'oméga des découvertes de Miller fut la prophétie des 2300 ans, si bien que tant 2844 que la loi du dimanche sont représentées par les 2300 ans. Cela signifie que le 2520 est l'alpha et que le 2300 est l'oméga des deux lignes. L'une se conclut en 2663 et l'autre se conclut avec la loi du dimanche. Sur les deux lignes, la prophétie des 2520 est l'alpha et ou la pierre de fondation. La fractale de 2698 jusqu'en 2663, dans l'histoire fondatrice des Millerites, s'aligne également avec une autre fractale dans l'histoire oméga, de la pierre fêtière des 144 000.
Le 11 septembre, Dieu appela son peuple à revenir aux anciens sentiers de Jérémie, qui sont les fondements, lesquels sont à leur tour représentés par le messager de l'histoire fondatrice, lui-même représenté par sa découverte alpha fondatrice des 7 temps. Les 7 temps sont le premier symbole des fondements des 144 000 et, le 11 septembre, le scellement de ce groupe a commencé avec le message de mise à l'épreuve des fondements, représenté par la toute première vérité fondamentale de William Miller et de l'adventisme. Le 11 septembre, le temps du scellement a commencé. Et au moment de la loi dominicale imminente, le temps du scellement des 144 000 s'achève.
L'histoire est une fractale qui commence par 2 520 et s'achève à 2 300. Et cette histoire constitue donc la troisième ligne de l'histoire prophétique représentée dans le rêve de William Miller. La période des 2 505 est accomplie en 1798 et celle des 2 300 en 844. L'œuvre présentée par les deux lignes est l'œuvre du Christ, consistant à unir sa divinité à notre humanité. C'est l'œuvre de transformer un pécheur en saint, en rétablissant la nature supérieure sur son trône légitime au-dessus de la nature inférieure. Pour cette raison, le corps humain met 2 520 jours à renouveler totalement toutes les cellules. Et ce même corps est fondé sur 23 chromosomes masculins combinés à 23 chromosomes féminins. Ensemble, ils produisent un temple vivant représenté par le nombre 46, qui correspond à la période de 1798 à 1844, laquelle est celle du rêve de William Miller, des 2 520 en 1798 aux 2 300 en 1844.
Le rêve de William Miller contient également un autre motif fractal remarquable. La période allant du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche constitue une fractale de celle allant de 1798 jusqu'à la loi du dimanche, tout comme celle de 1798 à 1863. La période allant de 2023 jusqu'à la loi du dimanche est une fractale de celle qui va du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche, et c'est l'histoire vers laquelle toutes les lignes du rêve de Miller pointent comme à leur oméga. C'est la période durant laquelle les vérités originelles sont magnifiées 10 fois plus que le soleil.
Les deux tournures.
Dans les années 1840, le mot « bosto », en tant que substantif, signifiait couramment une activité énergique, affairée ou bouillante, souvent avec une nuance d'émoi, d'excitation, de hâte ou d'agitation. Il renvoyait à un mouvement animé, au tumulte, au va-et-vient affairé, que ce fût dans une foule, un foyer, un marché ou lors d'un événement particulier. Le « bosto » du rêve de Miller décrirait ainsi le surcroît immédiat d'activité, d'excitation ou d'affaires pressantes se produisant sur le champ, l'émoi passager ou le tumulte passager de la situation présente ou de l'occasion présente. Miller déclare « Alors, tandis qu'il balayait la saleté et les détritus, les faux joyaux et la fausse monnaie, le tout s'éleva et sortit par la fenêtre comme un nuage, et le vent les emporta. Dans l'agitation, je fermai les yeux un instant. Quand je les rouvris, les détritus avaient entièrement disparu. »
Le tumulte identifie deux moments dans le rêve de Miller. Le premier, lorsque la foule disperse les joyaux. Puis lorsque l'homme muni d'une brosse à poussière ouvre les fenêtres et commence à balayer au dehors les faux joyaux. Le premier tumulte, l'alpha, est l'enfouissement des joyaux. Et le second, l'oméga, est la restauration des joyaux. Pendant le tumulte, Miller ferma les yeux.
Miller fut mis au repos en 1849, au moment même où le Christ étendait sa main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple. Miller ferma alors les yeux et, en 1850, ses vérités furent de nouveau placées sur une table en accomplissement de l'ordre d'Habacuc d'écrire la vision et de la rendre claire. Durant cette période de tumulte, Miller ferma les yeux et, lorsqu'il s'éveilla, les joyaux étaient en cours de restauration.
Le second tumulte dans son rêve se produit lorsque l'étendard des 144 000 est ressuscité, purgé et purifié
comme l'étendard que Zacharie identifie comme étant des joyaux sur une couronne.
Et l'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils seront comme les pierres d'une couronne, élevées comme un étendard sur sa terre. Car quelle est grande sa bonté, et quelle est grande sa beauté. Le blé rendra les jeunes hommes joyeux, et le vin nouveau les jeunes filles. Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Ainsi l'Éternel fera des nuées éclatantes et leur donnera des ondées de pluie, et à chacun de l'herbe dans le champ. Car les idoles ont parlé vanité, et les devins ont vu le mensonge et ont raconté de faux songes. Ils consolent en vain, c'est pourquoi ils ont erré comme un troupeau, ils ont été troublés, parce qu'il n'y avait pas de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers, et j'ai châtié les boucs, car l'Éternel des armées a visité son troupeau, la maison de Juda, et les a rendus comme son noble cheval dans la bataille. Zacharie 9, 16, 13.
Le troupeau de son peuple est à la fois un étendard et des pierres, joyaux sur une couronne. Le troupeau de son peuple est identifié durant la pluie de l'arrière-saison, car le commandement est de demander la pluie de l'arrière-saison au temps de la pluie de l'arrière-saison. Ce troupeau est mis en contraste avec le troupeau qui s'en est allé selon sa propre voie, plutôt que selon les anciens sentiers de Jérémie. Au temps de la pluie de l'arrière-saison, les joyaux que constitue son troupeau seront son noble coursier dans la bataille. Ce noble coursier est l'Église triomphante, représentée dans la première épouse chrétienne, symbolisée par Pierre, qui, en tant que cheval blanc, durant la période du premier sceau, sortit en vainqueur et pour vaincre.
Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis, comme un bruit de tonnerre, l'un des quatre êtres vivants qui disait « Viens et vois ». Et je vis, et voici un cheval blanc. Celui qui était assis sur lui avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, 4-4, 1-2.
Pierre est donc le symbole de la première église chrétienne des apôtres, lors de l'effusion pentecôtale de la pluie, et le symbole de la dernière église chrétienne au temps de la pluie de l'arrière-saison, qui fut préfigurée par l'effusion pentecôtale.
Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête reposaient de nombreux diadèmes, et il portait un nom écrit que nul ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. Apocalypse 19, 11 dans 14.
Les chevaux blancs représentent l'armée du Christ ressuscité en Ézéchiel 37. Ils constituent l'Église triomphante et sont des pierres d'une couronne, car le Christ établit son royaume de gloire au temps de la pluie de l'arrière-saison. En tant que représentants de son royaume, les 144 000 sont des joyaux sur la couronne, laquelle est le symbole du royaume qu'il reçoit à l'issue des 2300 jours, événement qui eut lieu le 22 octobre 1844 et se reproduira lors de la loi du dimanche. Ce royaume de chevaux blancs est suscité pendant la pluie de l'arrière-saison, lorsque les écluses des cieux sont ouvertes, car Jean vit le cheval blanc lorsque le ciel s'ouvrit. Dans le tumulte alpha de 1649, Miller ferma les yeux dans la mort, pour un bref instant. Miller était Élie, et Élie mourut le 18 juillet 2020, et il resta étendu dans la rue pendant 1260 jours jusqu'à atteindre le tumulte Oméga. Puis il fut éveillé. Son réveil est marqué comme survenant lorsque l'homme au balai à poussière ouvrit la fenêtre du ciel pour balayer les immondices. L'armée de chevaux blancs est levée lorsque la fenêtre du ciel est ouverte. Et, lorsque cela se produit, une séparation du vrai et du faux est identifiée. Cette séparation est également identifiée dans le livre de Malachie.
Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi maintenant à l'épreuve à cet égard, dit l'Éternel désormais, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux et si je ne répands pas sur vous une bénédiction, au point qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. Malachie 3, 10.
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et Jean, dans l'Apocalypse, le rêve de Miller, et Malachie constituent trois témoins du moment où les fenêtres des cieux sont ouvertes. Dans le rêve de Miller, cela se situe à l'oméga de l'appel. Viens et vois. L'agitation à l'alpha eut lieu lorsque commença la dispersion, et l'oméga est le moment où commence le rassemblement. Avant d'aller plus loin dans le rêve de Miller, nous souhaitons inclure le commentaire de James White sur ce rêve. James White identifie les joyaux véritables au véritable peuple de Dieu, et les joyaux contrefaits aux impies. Pour ma part, j'identifie les joyaux aux vérités, par opposition à l'erreur.
Les joyaux et les joyaux contrefaits représentent à la fois le message et les messagers, par opposition à l'erreur et au faux messager.
Le songe du frère Miller. Le rêve suivant a été publié dans l'Advent Herald il y a plus de 2 ans. J'ai alors vu qu'il décrivait clairement notre expérience passée du second avènement et que Dieu avait donné ce rêve pour le bien du troupeau dispersé. Parmi les signes de l'imminence du grand et terrible jour du Seigneur, Dieu a placé les songes. Voir Joël 2:28-31, Actes 2:17-20. Les songes peuvent venir de 3 manières. Premièrement, par la multitude des occupations. Voir Ecclésiaste 5:3. Deuxièmement, ceux qui sont sous l'esprit immonde et la tromperie de Satan peuvent avoir des songes sous son influence. Voir Deutéronome 8:5, Jérémie 23:5-5, 27:9, 29:40, Zacharie 10:2, Jude 8. Et troisièmement, Dieu a toujours enseigné et enseigne encore son peuple plus ou moins par des songes, qui viennent par l'entremise des anges et du Saint-Esprit. Ceux qui se tiennent dans la claire lumière de la vérité sauront quand Dieu leur donne un songe, et de telles personnes ne seront pas trompées ni égarées par de faux songes.
Et il dit, « Écoutez maintenant mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui dans une vision, et je lui parlerai en songe. » Nombre 12:6. Jacob dit, « L'ange du Seigneur me parla en songe. » Genèse 31:2. Et Dieu vint à Laban le Syrien en songe pendant la nuit. Genèse 31:24. Lisez les songes de Joseph. Genèse 37:5-9, puis l'intéressante histoire de leur accomplissement en Égypte. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon en songe, pendant la nuit. 1 Rois 3:5. La grande image importante du 2e chapitre de Daniel fut donnée en songe. De même, les 4 bêtes, etc., du 7e chapitre. Lorsqu'Hérode cherchait à détruire le sauveur enfant, Joseph fut averti en songe de fuir en Égypte. Matthieu 2:13.
Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions, et vos vieillards auront des songes. Acte 2:17. Le don de prophétie par des rêves et des visions est ici le fruit du Saint-Esprit, et dans les derniers jours, il doit se manifester suffisamment pour constituer un signe. C'est l'un des dons de l'Église de l'Évangile. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4:11-12. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, en second lieu des prophètes, etc. 1 Corinthiens 2:28. Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5:20. Voir aussi Actes 13:1, 21:9, Romains 7:6, 1 Corinthiens 14:1, 24:39. Les prophètes, ou les prophéties, sont pour l'édification de l'Église du Christ, et rien, dans la parole de Dieu, ne peut être allégué pour montrer qu'il devait cesser avant que ne cessassassent les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais, dit l'objecteur, il y a eu tant de fausses visions et de faux songes que je ne puis avoir confiance en rien de ce genre. Il est vrai que Satan a sa contrefaçon. Il a toujours eu de faux prophètes, et certes, nous pouvons nous y attendre maintenant, en cette dernière heure de sa séduction et de son triomphe. Ceux qui rejettent de telles révélations spéciales, sous prétexte que la contrefaçon existe, peuvent, avec une égale cohérence, aller un peu plus loin et nier que Dieu se soit jamais révélé à l'homme par un songe ou une vision, car la contrefaçon a toujours existé. Les songes et les visions sont le moyen par lequel Dieu s'est révélé à l'homme. Par ce moyen, il s'est adressé aux prophètes, il a placé le don de prophétie parmi les dons de l'Église, de l'Évangile, et a classé les songes et les visions parmi les autres signes des derniers jours. Amen. Mon dessein, dans les remarques qui précèdent, a été d'écarter les objections d'une manière conforme à l'Écriture et de préparer l'esprit du lecteur à ce qui suit.
W.M. Miller, Loehampton, New York. 3 December 1808, James White, Le Rêve du Frère Miller, plus 6.
1. Le coffret représente les grandes vérités de la Bible relatives au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui furent données à Frère Miller pour les publier au monde.
2. La clé attachée était sa manière d'interpréter la parole prophétique, en comparant l'Écriture avec l'Écriture, la Bible étant son propre interprète. Avec cette clé,
le frère Miller ouvrit le coffret, c'est-à-dire la grande vérité de l'avènement au monde.
Fruits, les joyaux, diamants, etc., de toutes sortes et de toutes tailles, si admirablement révélés ipsos et chacun à sa place dans l'écrin, représentent les enfants de Dieu, Malachie 3:17, issus de toutes les églises et de presque tous rangs et de toutes conditions de vie, qui ont reçu la foi de l'avènement et que l'on vit prendre, chacun à son poste, une position résolue et hardie dans la sainte cause de la vérité, se mouvant dans cet ordre, chacun s'acquittant de son propre devoir et marchant humblement devant Dieu, il reflétait une lumière et une gloire au monde que seul égalait l'Église au jour des apôtres. Le message, Apocalypse 14, 6-7, s'envola, pour ainsi dire, sur les ailes du vent, et l'invitation « Venez, car tout est maintenant prêt » Luc 14, 17, se répandit avec puissance et efficacité. Foire, le peuple commença à entrer, d'abord peu nombreux, puis leur nombre augmenta jusqu'à former une foule. Lorsque la doctrine de l'avènement fut d'abord prêchée par le frère Miller et par très peu d'autres, elle produisit peu d'effets, et bien peu furent réveillés par elle. Mais de 1840 à 1844, partout où elle fut prêchée, toute la communauté fut éveillée. 5. Lorsque l'ange volant, Apocalypse 14 Chrétien 7, commença à proclamer, pour la première fois, l'Évangile éternel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nombreux furent ceux qui, à la perspective de la venue de Jésus et de la restitution, poussèrent des cris de joie, lesquels ensuite s'opposèrent, se moquèrent et ridiculisèrent la vérité qui, peu auparavant, les avait remplis de joie. Ils troublèrent et dispersèrent les joyaux. Cela nous amène à l'automne 1844, lorsque commença le temps de la dispersion. Notez-le bien. Ceux qui jadis poussaient des cris de joie sont précisément ceux qui ont semé le trouble et éparpillé les joyaux. Et nul, depuis 1844, n'a dispersé le troupeau et ne l'a égaré avec autant d'efficacité que ceux qui autrefois prêchaient la vérité et s'en réjouissaient. Mais qui, depuis, ont renié l'œuvre de Dieu et l'accomplissement de la prophétie dans notre expérience adventiste passée. 6. Les faux joyaux et la fausse monnaie qui étaient disséminés parmi les véritables représentent clairement de faux convertis ou des enfants étrangers, Osée 5-7, depuis que la porte a été fermée en 1844. 7. Les saletés et copeaux, le sable et toutes sortes d'immondices représentent les diverses et nombreuses erreurs qui ont été introduites parmi les croyants au second avènement depuis l'automne de 1844. J'en signalerai ici quelques-unes. 1. La position que certains des bergers ont présomptueusement adoptée immédiatement après que le cri de minuit eut été donné, à savoir que la solennelle puissance attendrissante du Saint-Esprit qui accompagna le mouvement du septième mois n'était qu'une influence mesmérique. George Storr fut parmi les premiers à adopter cette position. Voir ses écrits vers la fin de 1844, dans le Midnight Cry, alors publié à New York. G.V. Himes, à la conférence d'Albany au printemps de 1845, déclara que le mouvement du septième mois produisait du mesmérisme jusqu'à 7 pieds de profondeur. Cela m'a été rapporté par quelqu'un qui était présent et a entendu cette remarque. D'autres qui prirent une part active au cri du septième mois ont depuis déclaré que ce mouvement était l'œuvre du diable. Attribuer l'œuvre du Christ et du Saint-Esprit au diable était, au jour de notre Sauveur, un blasphème et s'en est un aujourd'hui encore. 2. Les nombreuses tentatives de fixer un temps précis. Depuis que les 2300 jours ont pris fin en 1844, un assez grand nombre de dates ont été fixées par divers individus pour leur achèvement. Ce faisant, ils ont déplacé les bornes et ont jeté les ténèbres et le doute sur l'ensemble du mouvement adventiste. 3. Le spiritisme avec toutes ses chimères et ses extravagances. Cette ruse du diable, qui a accompli une effroyable œuvre de mort, est très à propos représentée par des copeaux et toutes sortes de rebuts. Beaucoup de ceux qui ont bu le poison du spiritisme ont reconnu la vérité de notre expérience adventiste passée, et de ce fait, beaucoup ont été amenés à croire que le spiritisme était le fruit naturel de la croyance que Dieu a conduit les grands mouvements adventistes en 1843 et 1844. Pierre, parlant de ceux qui devaient introduire des hérésies pernicieuses, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, dit « À cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. » 4. Seth S. Snow se proclamant Élie le prophète. Cet homme, dans sa carrière étrange et débridée, a aussi joué son rôle dans cette œuvre de mort et sa conduite a eu tendance à discréditer, aux yeux de nombreuses âmes sincères, la vraie position des saints qui attendent. À ce catalogue d'erreurs,
Je pourrais en ajouter bien d'autres, tels que les 1000 ans d'Apocalypse 24, 7, situés dans le passé, les 144 000 d'Apocalypse 7-4, 14-1-4, ceux qui se levèrent et sortirent des tombeaux après la résurrection du Christ, la doctrine du non-travail, la doctrine de la destruction des enfants en bas âge, etc., etc. Ces erreurs furent si assidûment propagées et si instamment inculquées au troupeau dans l'attente qu'au moment où le frère Miller eut le songe, les véritables joyaux étaient soustraits au regard et les paroles du prophète étaient applicables. Et le jugement s'est retiré en arrière et la justice se tient au loin, etc., etc. Voir Ésaïe 56:14. À cette époque, il n'y avait dans le pays aucun journal adventiste qui défendît la cause de la vérité présente. Le Day Dawn fut le dernier à défendre la véritable position du petit troupeau. Mais il mourut plusieurs mois avant que le Seigneur ne donnât à frère Miller ce songe. Et, dans sa dernière lutte agonisante, il désigna au saint las et soupirant l'an 1877, alors à 30 ans dans l'avenir, comme le temps de leur délivrance finale. Hélas, hélas! Rien d'étonnant à ce que frère Miller, dans son songe, s'assit et pleura sur ce triste état de choses.
It, point de confrère, représente la vérité de l'événement que le frère Miller a publié au monde, ainsi que l'indique la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 2 ventre 11. Premièrement, le temps, 1843. Deuxièmement, le temps d'attente. Troisièmement, le cri de minuit, au septième mois de 1844. Et quatrièmement, la porte fermée. Nul parmi ceux qui ont lu les journaux du second avènement depuis 1843 ne niera que le frère Miller a soutenu ces quatre points importants de l'histoire de l'avènement. Ce système harmonieux de vérité, ou coffret, a été mis en pièces et éparpillé parmi les décombres par ceux qui savent rejeter leur propre expérience et ont nié les vérités mêmes qu'avec le frère Miller, ils ont prêché si intrépidement au monde.
Nov, l'homme à la brosse à poussière, représente la claire lumière de la vérité présente, telle que la met en évidence le message du troisième ange, Apocalypse 14:9-12, qui purge maintenant le reste des erreurs. La cause de la vérité présente commença à se ranimer au printemps de 1848 et depuis ce temps jusqu'à présent, elle n'a cessé de s'élever et de gagner en force. La brosse à poussière est à l'œuvre et les erreurs s'effacent devant la claire lumière de la vérité. Et quelques-uns des joyaux précieux, qui il y a peu de temps encore, étaient recouverts et soustraits à la vue par les ténèbres et l'erreur, se tiennent maintenant dans la claire lumière de la vérité présente.
Cette œuvre, qui consiste à mettre au jour les joyaux et à extirper l'erreur, s'accroît rapidement et elle est destinée à avancer avec une puissance toujours croissante jusqu'à ce que tous les saints soient recherchés et reçoivent le sceau du Dieu vivant. Comparez cela avec le chapitre 34 d'Ézéchiel et vous verrez que Dieu a promis de rassembler son troupeau qui a été dispersé en ce jour sombre et nuageux depuis 1844. Avant que Jésus ne vienne, le petit troupeau sera rassemblé dans l'unité de la foi. Jésus purifie maintenant pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres, et, lorsqu'il viendra, il trouvera son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son air et amassera son blé dans le grenier, etc. Matthieu 3:12.
Tia, le second coffret, beaucoup plus grand et plus beau que le précédent, dans lequel furent rassemblés les joyaux, les diamants et les pièces qui avaient été dispersées, représente le vaste champ de la vérité présente vivante, dans lequel le troupeau dispersé sera rassemblé, au nombre même de 144 000, tous ayant le sceau du Dieu vivant. Pas un seul des précieux diamants ne sera laissé dans les ténèbres. Quoi qu'il y en ait qui ne soit pas plus gros que la pointe d'une épingle, ils ne seront ni négligés, ni laissés de côté, en ce jour où Dieu rassemble ses joyaux. Malachie 3:16-18. Il peut envoyer ses anges et les faire sortir en hâte, comme il fit sortir Lot de Sodome. Le Seigneur accomplira sur la terre une œuvre brève, il l'abrégera dans la justice. Voir Romains 9:28. James White, note au songe du frère Miller.